18h. Anthony Montandon.
Bonsoir. Français et Croates se disputent actuellement la couronne mondiale du football. La finale du mondial russe a débuté à 17h et après une mi-temps, ce sont les Bleus qui mènent 2-1. Un homme a succombé à un accident de travail ce matin à Corgémont. Il avait 49 ans. Les faits se sont produits dans une exploitation fromagère. Montgiraud a une nouvelle fois été en fête ce week-end. Le groupe Sanglier a organisé son traditionnel rendez-vous annuel. La manifestation a été marquée aujourd'hui par des discours politiques, une partie que les organisateurs pensaient à l'origine ne pas mettre sur pied. Ça va être bruyant dans le ciel de la région ce soir et cette nuit. L'orage est attendu un peu partout ces prochaines heures. Demain, pas de changement. Le mercure devrait par contre perdre quelques degrés. La planète football a les yeux rivés sur la Russie. La France et la Croatie disputent la finale de la Coupe du Monde. Le coup d'envoi du match a été donné à 17h au stade Loujniki de Moscou. Au terme de la première mi-temps, ce sont les Bleus qui mènent 2-1. Émilie Moumentaler, vous recevez en direct par téléphone notre consultant football Bertrand Chauffa pour décortiquer cette première période.
Oui, Bertrand Chauffa, bonsoir.
Bonsoir Émilie.
Alors on aurait pu craindre un match fermé pour une finale, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'on ne s'est pas ennuyé durant cette première mi-temps.
Oui tout à fait, un match en jeu mais avec beaucoup d'émotions et un match plein où on est quand même un petit peu surpris. Moi je m'attendais à voir l'équipe de France prendre le match en main. La possession de balle, elle est cette fois-ci en faveur de la Croatie, même très nettement. Mais pourtant, on voit une équipe de France bien organisée, qui a su réagir dans les bons moments, et puis avec très peu d'occasions, réussir à marquer 2 buts.
Et c'est la France qui a ouvert le score à la 18e minute de jeu. Même si c'est un autogol sur un coup franc d'Antoine Griezmann, il a un air de déjà-vu, non, sur un coup de pied arrêté.
Oui, alors on a vu que les coups de pied arrêtés avaient pris une très grande importance dans ce championnat du monde. Et une fois de plus, avec une bonne organisation et beaucoup de monde dans les 16 mètres, et de nouveau, peut-être grâce à cette technologie qu'on appelle le VAR maintenant, empêche les joueurs de ceinturer comme ça se faisait précédemment, ce qui donne des occasions supplémentaires. Et là, on voit de nouveau 3 coups de pied arrêtés qui permettent des buts. Sur le deuxième but, la France n'a pas réussi à se dégager parce qu'il y a une pression puis qu'on ne peut pas faire de faute. Et à ce moment-là, j'entends l'équipe qui est la plus agressive dans les 16 mètres va gagner son duel.
Justement, à cette égalisation d'Ivan Perisic à la 28e minute de jeu, c'est un joli but et c'était mérité pour la Croatie.
Oui, il était mérité parce qu'on sent que cette équipe, elle ne lâche rien. Et ils l'ont prouvé, donc ils n'ont même pas accusé le coup. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils étaient au fond du gouffre, c'est plutôt les spectateurs ou le public qui est là à Moscou qui a lâché prise, mais les joueurs eux-mêmes ont continué de jouer sans créer des occasions et on l'a vu sur ce coup de pied arrêté là à nouveau, la France n'a pas pu se dégager et Perisic a profité de cette occasion-là.
Dans cette première mi-temps, l'assistance vidéo a joué son rôle. Qu'est-ce que vous pensez de ce pénalty accordé à la France sur une main d'Ivan Perisic sur le 2-1 juste avant le tee?
C'est l'avantage de cette nouvelle technologie. Soit on l'accepte et puis on la met en pratique, ce qui a été le cas, parce que à vitesse normale et sur l'action de jeu, personnellement, je n'ai pas vu de pénalty, mais quand on voit l'action, il n'y a pas de discussion possible, c'est pénalty, le ballon change de direction, le ballon est touché du bras dans les 16 mètres, donc c'est pénalty. Donc dès le moment où on accepte de mettre en pratique cette technologie, on doit en tenir compte, et puis cette fois-ci, c'est à l'avantage de la France, avec, il faut bien le dire, un Griezmann qui doit être très solide de ses nerfs, parce qu'avec un tel enjeu, marquer un pénalty avec ce tel brio, j'ai trouvé que c'était fantastique de sa part.
Et on a pu constater la solidité française en défense lors de la phase finale notamment. Vous pensez que maintenant les Croates peuvent encore trouver la faille dans cette deuxième période alors que la France n'est qu'à 45 minutes d'une deuxième étoile?
Alors moi je dirais que tout est possible parce que cette Croatie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne lâche rien. Elle a été quasiment dans tous ses matchs de Coupe du Monde menée au score. Elle a su revenir, elle a su aller aux prolongations. Elle a su, dans ses prolongations, passer le cap. Et puis, je dirais, bien que la France, on la sent maîtriser la situation, peut à tout moment être soumise à ce but et à des prolongations, voire à des pénaltys. Mais honnêtement, en voyant la France, je pense qu'elle reviendra avec d'autres intentions en deuxième mi-temps, parce que si elle commet l'erreur qu'a commis l'Angleterre, alors là, je crains le pire, mais je pense que Deschamps va remettre son équipe sur les bons rails.
Maître Chauffard, merci d'avoir été avec nous pendant le thé de cette finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. On vous souhaite une excellente deuxième mi-temps.
Merci pareillement à vous tous. Merci.
Et merci Émilie, on vous retrouve après ce journal pour évoquer le reste de l'actualité sportive. Un homme a péri dans un accident de travail à Corgémont. Les faits se sont déroulés dans une exploitation fromagère tôt ce matin. L'information a été communiquée dans l'après-midi par la police cantonale bernoise. Les précisions de Claire Viget.
La victime est un homme de 49 ans domicilié dans le canton de Berne. Selon le communiqué des forces de l'ordre, les faits se sont déroulés vers 6h20 du matin. L'individu a été coincé par un bras mécanique de l'usine. Malgré les mesures de secours apportées immédiatement par les forces d'engagement, son décès a été constaté sur les lieux de l'accident. De plus amples investigations sont actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Au final, l'événement a mobilisé des policiers, des ambulanciers, les sapeurs-pompiers de la d'Erguel et de Tramelan, ainsi que le Care Team.
Les antiséparatistes bernois avaient une nouvelle fois rendez-vous sur les hauteurs de Champeau ce week-end. Ils se sont retrouvés à Montgiraud sur invitation du groupe Sanglier. Comme chaque année, des personnalités politiques y ont tenu des discours. Pourtant, à l'origine, cela ne devait pas être le cas cette fois-ci. Claire Viget.
C'est parce qu'ils jugent que la situation à Moutier est délétère que les organisateurs de la fête de Montgiraud ont tenu à conserver une partie politique. À la tribune, quatre orateurs se sont succédés et tous sont unanimes. Ils estiment que les antiséparatistes prévotois subissent actuellement des pressions et des brimades de l'autre camp. Tout en appelant à continuer à militer pour que Moutier reste bernoise, Francis Pelaton du comité Moutier résiste affirme comprendre la lassitude ressentie par de nombreux habitants au-delà des frontières prévotoise face à cette situation. Il souhaite néanmoins que ces personnes se rallient à sa cause afin de lutter pour conserver l'intégrité de la région. L'avenir institutionnel incertain est pour tous responsable du climat tendu. Le président du mouvement Force démocratique, Jean-Pierre Grabert, estime d'ailleurs qu'il risque de perdurer encore plusieurs années. Pour lui, la question de l'appartenance cantonale de Moutier ne sera pas réglée après le classement des procédures. Peu importe la décision de la préfecture, il s'attend à voir le dossier être transféré à des instances supérieures. Si l'ambiance reste donc tendue en prévôté, les antiséparatistes disent garder espoir. Comme l'a affirmé le conseiller national UDC Manfred Buller, la partie n'est pas perdue.
Vacances oblige, le tunnel du Gothard s'est retrouvé totalement engorgé ce week-end. Tôt samedi matin, une colonne longue de 14 km bloquait l'entrée nord. L'embouteillage s'est formé vendredi matin déjà, selon Via Suisse. Aujourd'hui, la centrale d'information routière a indiqué que de nouveaux encombrements se sont formés. En milieu de journée, la file de voitures atteignait 10 km avant de diminuer progressivement dans l'après-midi. Dans l'autre sens, un bouchon de 4 km a été signalé dimanche. Via Suisse rappelle qu'il existe des itinéraires alternatifs pour se rendre vers le sud, notamment par le San Bernardino et l'école alpine du Simplon du Grand Saint-Bernard, d'Oury et de Berne. À l'étranger, un attentat suicide a fait au moins 7 morts à Kaboul. Les faits se sont déroulés à l'heure de la sortie des bureaux près du ministère du Développement Rural. Au moins 15 autres personnes ont été blessées dans cet événement, selon la police. Il s'agit du troisième attentat survenu en Afghanistan ces deux dernières semaines. Et comme vous l'avez entendu en ouverture de ce journal, la France n'est plus qu'à 45 minutes d'une deuxième étoile, Émilie Moumentaler.
Oui, même un peu moins que ça, les Bleus mènent 2-1 contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde de football. Après 50 minutes de jeu, ils ont ouvert le score à la 18e sur un autogol de Mandzukic après un coup franc de Griezmann. Les Vatriniens ont égalisé grâce à Ivan Perisic à la 28e. C'est ensuite l'assistance vidéo qui a permis aux Français de passer devant. Un pénalty leur a été accordé sur une main dans les 16 mètres. Antoine Griezmann ne s'est pas fait prier pour inscrire le 2-1 pour la France. Et les Diables Rouges sont eux de retour au pays. L'équipe nationale belge a été fêtée aujourd'hui à Bruxelles par plusieurs dizaines de milliers de supporters au lendemain de sa victoire lors de la petite finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Près de 40 000 personnes ont applaudi le passage des Diables Rouges selon la police de Bruxelles. Novak Djokovic ressuscité sur le gazon londonien de Wimbledon. Le Serbe a remporté un 13e titre du Grand Chelem cet après-midi. Il s'est imposé en 3-7 face au Sud-Africain Kevin Anderson en finale 6-2, 6-2 et 7-6. Après deux ans de disette, le Serbe remporte à nouveau un tournoi majeur. Les précisions de Yann Esler.
Novak Djokovic est bel et bien de retour aux affaires. Il n'a laissé quasiment aucune chance en finale à Kevin Anderson. Ce dernier, éprouvé par les 11 heures passées sur le court dans ses deux derniers matchs, en a fait les frais. Le géant sud-africain a d'ailleurs concédé le break dès le premier jeu de cette finale et il a lâché une deuxième fois son service dans le cinquième jeu pour se retrouver rapidement mené 1-5. Soigné pour des douleurs au coude droit à l'issue du premier set, Kevin Anderson n'a fait illusion que durant la troisième manche. Le finaliste malheureux du dernier US Open s'est même procuré 4 balles de set à la relance, sans parvenir à porter l'estocade. Novak Djokovic a en revanche parfaitement maîtrisé son sujet dans le tie-break. Il s'impose après 2h18 de jeu pour cueillir un titre qu'il n'espérait peut-être plus.
Il s'agit du 4e titre pour Novak Djokovic à Wimbledon. Les pavés de l'enfer du Nord ont souri à John Degenkolb. Le cycliste allemand a remporté la 9e étape du Tour de France cet après-midi. Longue de 156,5 km entre Arras et Roubaix, elle comportait 15 secteurs pavés. Lors d'une arrivée à 3, John Degenkolb a pris le meilleur sur deux Belges, le porteur du maillot jaune Greg Van Avermaet et le champion national Yves Lambert. Comme redouté, cette étape a fait de la casse. Sur la route du Tour, son résumé est signé Jean-Marie Sarka.
L'enfer du Nord au programme du jour avec 156 km entre Arras et Roubaix. Plusieurs attaques se font en début de course et finalement un groupe de 10 coureurs se retrouve à l'avant avec notamment les Français Lilian Calmejane, Nicolas Hédé, Damien Godin ou encore le Belge Thomas De Gendt. À 148 km de l'arrivée, coup de tonnerre, une chute intervient dans le peloton. L'un des favoris pour le maillot jaune, Richie Porte, se relève en pleurs et doit déjà dire adieu au Tour de France. Le groupe de tête quant à lui aborde le premier des 15 secteurs pavés avec 3 minutes 15 secondes d'avance sur le peloton, mais les attaquants du jour sont repris les uns après les autres. À 19 km de l'arrivée, la jonction a lieu, les choses sérieuses peuvent commencer. À 16 km du but, Yves Lampaert accélère, suivi par le maillot jaune Greg Van Avermaet et John Degenkolb. Pas de réaction immédiate du peloton, du coup la victoire va se jouer entre les trois hommes de tête. Le trio se regarde dans les 400 derniers mètres. Degenkolb lance le sprint et réussit à tenir. Il remporte la première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Greg Van Avermaet conforte porte lui son maillot jaune.
Greg Van Avermaet qui compte désormais 43 secondes d'avance sur le Britannique Geraint Thomas. Demain, c'est jour de repos sur le Tour de France. Toujours pas de points en MotoGP pour Thomas Lüthi. Le pilote bernois s'est classé 17e du Grand Prix d'Allemagne cet après-midi sur le Sachsenring. C'est l'Espagnol Marc Marquez qui s'est imposé pour la 9e année consécutive. Dominique Egerter a pris la 14e place en Moto2. Le bernois a ainsi inscrit 2 points au championnat lors d'une course gagnée par le Sud-Africain Brad Binder. Victoire de l'Espagnol Jorge Martin en Moto3. Et en VTT, Yolanda Neff et Nino Schurter ont tous deux dû se contenter d'un deuxième rang dans la manche de Coupe du Monde de cross-country de Val-Nort à Andorre. La Saint-Galloise et le Grison conservent néanmoins la tête du classement général. Dans la région, la Neuville a bien réussi au triathlète neuchâtelois. Le vaudrusien Michael Vernier a remporté la 5e et avant-dernière manche du championnat jurassien ce matin. Il a parcouru les 400 mètres de natation, 15 km de VTT et 7,2 km de course à pied dans un temps d'1h04min23s. Il devance les Chaudefonniers et Jonathan Raya et Maël Valla. Chez les dames, la victoire est revenue à la bernoise Camille Timmerman en 1h18min50s. La neuchâteloise Silesia Vélet termine 2e alors que Carole Perrault de Prel prend le 3e rang. Ils étaient un peu plus de 120 athlètes à prendre le départ et Silesia Vélet a d'ailleurs apprécié la nage en eau libre dans le lac de Bienne.
Ça change beaucoup parce que déjà c'est un départ en masse, donc c'est un peu la bagarre pour arriver en premier à la bouée. Donc faut se bagarrer plus qu'en piscine.
Qu'est-ce qui se passe sous l'eau qu'on n'arrive pas à voir?
On voit rien de toute façon. Il y a des bras un peu partout, on se donne des coups de pied, donc on voit rien non plus.
Le fait d'être tous ensemble, c'est quelque chose qui vous a un petit peu embêté ou c'était plus une expérience, quelque chose d'intéressant?
Moi je trouve intéressant déjà du fait qu'on voit nos adversaires directement. On ne part pas l'un derrière l'autre, donc on sait où on est tout au long de la course, on sait où on en est. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve.
Des propos recueillis par Yann Esler, la dernière manche du championnat jurassien se tiendra le 26 août à la Chaux-de-Fonds. Et c'est toujours 2-1 pour la France contre la Croatie à Moscou après 55 minutes de jeu lors de la finale de la Coupe du Monde de football. Excellente soirée.
Ça va tonner ce soir dans la région. L'orage devrait régner durant la nuit et même en début de semaine. Le retour du beau temps ne devrait pas s'opérer avant mercredi. Les températures, elles, vont en pâtir et baisser quelque peu. Demain, au meilleur de la journée, le mercure devrait grimper jusqu'à 23 degrés à 1000 mètres et jusqu'à 28 en pleine. Je vous souhaite une excellente soirée.